Et maintenant, la deuxième partie. Sur un sujet qui est tellement important que je ne peux pas souligner l'importance de ce que nous allons voir aujourd'hui. Rien n'est plus important que de comprendre l'enseignement de Dieu sur comment ça se fait pour être en règle avec notre Sauveur, comment avoir la justice qui garantit une admission dans la présence de Dieu. Et plein de choses sont proposées dans le monde, dans les religions. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Et notre passage que nous voulons voir, vous pouvez voir dans vos Bibles à vous. Normalement, je vous laisse lire le texte tout seul, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas l'habitude de tourner dans la Bible. Je vais mettre le texte sans beaucoup de commentaires et relire ce texte qui est le cœur de l'Évangile, qui est le cœur même de beaucoup de débats par rapport à l'Évangile et qui est le cœur de notre foi chrétienne. Donc je vais le lire et j'ai souligné une bonne douzaine de mots hautement très théologiques d'une grande signification que dans ce passage qui constitue une seule phrase, une longue phrase, et duquel beaucoup de directions différentes ont été prises dans le monde évangélique. Depuis le temps de Christ, le temps de Paul plutôt, et depuis le temps de la Réforme, et dans beaucoup de différentes dénominations, soi-disant protestants, évangéliques, ce passage est clé dans leur interprétation. Notez si vous pouvez, dans la lecture, ces différents mots, la compréhension de sens de ces mots est primordial en comprenant quelle est la nature de la foi qui sauve. Romains 3, 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans loi, j'ai éliminé l'article défini parce qu'il n'y a pas d'article dans l'original, ça ne parle pas de la loi particulière de Moïse ou quoi que ce soit, mais de loi en général. Maintenant, sans loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage l'Ancien Testament, la loi, les prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont témoigné? La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour qui? Tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Pourquoi pas il n'y a point de distinction? Parce que tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés, j'aurais dû souligner cela, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Si ce qui était avant est vrai, Où donc est le sujet de se glorifier? Mais il est exclu. Par quel principe? Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Par la loi de la foi. Quand nous concluons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Alors, question. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Réponse, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. J'avais mentionné la dernière fois. Excuse-moi, j'aurais dû tourner les pages, je ne l'ai pas fait. J'avais annoncé la dernière fois que la bataille ancienne était sur cette question. Est-ce qu'on est sauvé par la foi ou par les œuvres? Est-ce qu'on est sauvé par la foi plus les œuvres dans le catholicisme romain et dans beaucoup de religions, où on est sauvé rien que par la foi, point. C'était une question qui a été vraiment établie dans la Réforme, où beaucoup de gens luttaient, beaucoup de gens ont vraiment donné leur vie pour insister. On n'est pas sauvé par aucune petite œuvre que nous pourrions jamais faire pour que Dieu nous approuve, pour que Dieu a dit, il a fait du mal. Ah, mais là, d'accord, je l'accepte parce qu'il a fait quand même un tout petit peu, ou plus qu'un tout petit peu, suffisamment pour que, malgré ses défauts, il y a assez de grâce. Mon père disputait avec ma mère quand il rentrait de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, pour disputer avec ma mère qui venait d'accepter le Seigneur avant lui. Non, tu peux pas savoir que tu es sauvé. Parce que ça dépend, la dernière jour avant que tu meurs, tu peux faire un grand péché et tu auras plus de péché que de bien. Et donc, Dieu juge comme ça. C'est humain de penser comme ça, c'est normal de penser comme ça. Est-ce que ça, ce que enseigne la parole de Dieu? C'était une question de foi et foi seule. Mais la question plus moderne n'est pas cette question pour les églises évangéliques surtout, mais quel est le contenu de la foi qui sauve? Quel est le contenu? Qu'est-ce que la foi qui sauve? Et comment savoir si la foi que j'ai est vraiment la foi qui sauve? Il y a certaines personnes qui ne sont pas sûres qu'ils ont la foi, mais qu'ils ont la foi. Il y a d'autres personnes qui sont sûres qu'ils ont la foi qui sauve, mais qui n'ont pas la foi qui sauve. J'ai des voisins comme ça. Aucune souci. Leur foi est dans leur religion, et dans leur église, ou dans leurs bonnes œuvres. Il n'y a aucune question. Ils ont les gens de foi, ils seront au ciel, pour eux. Par rapport à la Bible, je dois dire, ils ont tort, et pourtant ils ont pleine conviction, et pleine sincérité. Martin Luther est connu pour cette phrase assez célèbre. Nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Sauvés par la foi seule. Martin Luther était très persécuté, très détesté, très dégoûté, très chassé, parce que il insistait sans compromis, on est sauvés par la foi seule. Il a même inséré dans la traduction en Allemagne, allemand, des Bibles. Il n'est pas écrit dans ce verset, il avait inséré, il est enseigné quand même, à travers le Nouveau Testament, et surtout dans ce passage. Sauvé par la foi seule, pourtant, disait-il, la foi qui sauve n'est jamais seule. les choses qui sont impliquées dans cette foi qui sauve sont des choses qui terminent par nous guider vers une assurance de notre salut. Est-ce que je suis convaincu parce que j'ai prié une prière il y a 30 ans, j'ai marqué la date dans ma Bible, j'ai mis ma signature à côté et la signature de mon pasteur, et jamais, quand j'ai du doute, je regarde à ça et je suis rassuré. Est-ce que ça c'est biblique? Donc il y a plein de gens qui pensent ça, moi-même inclus, pendant longtemps. Est-ce que la Bible enseigne cela? Nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi qui sauve n'est pas seule. Et nous avons commencé, il y a 4 semaines, 7 différentes marques qui sont incluses dans la foi qui sauve. Et donc, tous sont un don de Dieu, qui est vraiment le dernier point. Nous en avons vu 3 la dernière fois. Et nous allons essayer juste de réviser rapidement. Et voir les 4 autres, bien que, franchement, plus que j'approfondis dans l'enseignement de ces merveilleuses doctrines, plus que je suis émerveillé, que je n'ai même pas plongé en dessous de la surface qu'un mètre, il reste des kilomètres. Et on pourrait passer du temps avec chacun. Donc ça sera assez rapide, parce que je dois arrêter à l'heure de prendre le train pour Algange, 13h18, je crois, ou quelque chose comme ça, où j'enseignerai dans l'institut la semaine prochaine, à partir de demain matin. Donc, soyons réfléchis. Votre attention pendant 30 minutes. Écoutez, dur. Eh bien, révisons la foi qui sauve est une foi qui persuade de l'évangile et qui ne doute et qui ne niait. Nier veut dire ce n'est pas vrai. Douter veut dire il est peut-être pas vrai, mais on peut pas savoir. La foi donnée par Dieu comme un don surnaturel est une foi qui ne doute pas et qui nie. Rappelez-vous, et nous avons mentionné ça, quand Jésus était avec des centaines, peut-être des milliers de disciples, entre guillemets, c'était marqué. Et quand il commençait de parler de son sang et de son chair qui doit être mangé, c'était dégoûtante pour eux. Beaucoup de ses disciples partaient. Jésus tournait vers ses disciples, 12, et vous aussi, vous allez partir? Et qu'est-ce que Pierre avait dit? Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Une chose que nous voyons par rapport aux disciples, quand ils croyaient, ils suivaient Jésus. Ils suivaient déjà Jésus. Jésus en avait 5 disciples quand il a changé le eau en vin, en Jean. Et ils disaient, quand ils ont vu ça, ils ont cru. Mais ils avaient déjà cru. Oui, mais maintenant ils ont cru. Oui, mais ils avaient déjà cru. Oui, mais maintenant ils ont cru. Et ça, c'est la vie chrétienne pendant toute la vie. Je dis ça souvent à ma femme quand je rentre avec des 1-1-1, avec des études, avec les choses de base. Maintenant je comprends, maintenant je crois. Ah oui, j'ai déjà cru 1000 fois. Je crois pour la prochaine fois encore mieux qu'avant. Ils croyaient, mais il y a certains qui croient, mais qui n'est pas une foi, qui possède le contenu de la foi qui sauve. Tout le monde croit quelque chose. Tout le monde est content de croire quelque chose. Ils n'osent pas ne pas croire quelque chose, parce qu'il faut croire. Et donc, nous avons parlé aussi de Thomas, qui avait fait une décision de refuser de croire, à moins que c'est les preuves qu'ils insistaient dessus soient accomplies. Il y a des gens comme ça aujourd'hui, ils refusent de croire. C'est un choix. À moins que je peux toucher les blessures de mon Seigneur, je refuse de croire. Et Jésus dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est une foi qui change. Une foi qui change nos convictions. Et nous n'avons pas le temps de parler de cela, mais on avait parlé de Jean-Baptiste, on avait parlé de Jésus, on avait parlé de Pierre, on avait parlé de Paul, qui prêchait la repentance, un changement d'esprit quand le Seigneur par son Esprit Saint, nous dévoile le sens de l'Évangile. On croit, on croyait ça, et maintenant on croit ça. On ne tourne plus vers ça parce qu'on ne croit plus ça. On reste vers ça parce que c'est ça que nous croyons. Et ça, c'est à une œuvre de l'Esprit Saint. C'est surnaturel. Dieu nous donne la foi qui ne peut plus ne pas croire, pour ainsi dire. Si, il y a des doutes parfois qui peuvent entrer, mais ils peuvent pas trop persister par rapport à la véracité de salut pourvu par le Seigneur sur le croix. Par rapport à mon salut, quand j'ai vu ce que j'ai fait hier et je l'aurais pas dû faire, ça peut arriver assez souvent. Ce n'est pas une mauvaise chose de demander est-ce que, après faire ça, j'ai vraiment, alors allons-y, confirmer par la parole de Dieu la véracité et la réalité et l'intensité de la foi qui sauve. Paul annonçait aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi, l'une qui ne peut pas aller sans l'autre, en notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième chose que nous avons constatée, c'était la foi qui est basée sur un objet. En Corinthiens chapitre 15, verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit les autres disciples, que ce soit qui que ce soit, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. C'est quoi que nous avons cru? Ce que nous avons prêché, ce que vous avez cru, c'est quoi? Mais ce qui venait d'annoncer dans les trois premiers versets de ce chapitre, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. C'était que Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alors ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit qui que ce soit, voilà ce que nous prêchons et voilà ce que vous avez cru. Avez-vous cru cela? Pas simplement est-ce que vous avez hoché la tête comme ça pour dire « si, si » et que ça ne produit pas en change parce que la foi qui sauve change l'opinion et la direction de la personne qui croit. Un enfant naisse, est-ce qu'il y a la vie dans cet enfant ou pas? C'est le travail d'un sage-femme ou du médecin traitant ou de qui que ce soit, de faire sûr que les signes vitaux sont dans cet enfant. Il regarde, il a tous les 5 doigts, 10 doigts, 5 sur chaque côté, les pieds et tout. Il a l'air bien, mais est-ce qu'il vit? Et donc ils font de leur mieux d'entendre le premier cri de l'enfant. C'est le plus joyeux cri qui ait jamais été crié par un enfant par rapport aux sages-femmes. Et maman, et papa, ce cri de stupéfaction de la part de l'enfant, qui ne sait pas ce qui se passe, mais qui démontre que la vie est là. Et puis, à travers les jours et les semaines et les mois et les années, il démontre de plus en plus les signes vitaux ont été bien aperçus correctement. Donc, il était l'évangile qui sauve. Il y a un objet. C'est pas simplement une positivisme. C'est pas simplement un optimisme. C'est une persuasion, conviction de quelque chose qui est visualisable, qui est visible, qui est touchable, visible par les Dieu de l'esprit, parce que nous marchons par la foi et non par la vue. C'est quelque chose de réel. Le quatrième, ce que nous voyons ici pour la première fois, enfin, dans ces deux messages. La foi est une foi qui unit le pécheur à la personne de Jésus-Christ. Et peut-être le verset le plus frappant de ceci est Jean chapitre 1, verset 12, verset que beaucoup de chrétiens connaissent bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en préposition, c'est bizarre à l'époque de croire en. On croyait, c'est tout. On croyait cet homme. On croyait cette déclaration. Mais on ne croyait pas en quoi que ce soit. Mais en Jean, au moins une trentaine de fois, nous avons ça, une foi qui sauve, une préposition de mouvement où la personne entre en Christ. Si quelqu'un est en Christ, ce n'est pas simplement du blabla religieux dans un culte de l'Église. C'est une véritable actualité dans la réalité de la foi chrétienne. On entre en Christ et nous sommes aimés par le Père parce que nous sommes dans le bien-aimé. Et Dieu le Père ne peut pas aimer nous, le Fils, plus qu'il nous aime, parce que nous sommes en Christ. Il est une nouvelle créature. Ce petit bébé qui naît, c'est une nouvelle créature. Physiquement, il ne peut rien faire. Il est absolument à la merci des autres personnes. Mais il est une nouvelle créature physiquement. Et des signes se démontrent de plus en plus, jour après jour après jour. Le signe de la vraie foi, peu importe une admission vocale de la part de qui que ce soit, qui n'a aucun signe vital, on n'a pas le droit de dire que cette personne a la vie, purement parce qu'il est avancé dans une réunion de Billy Graham il y a des années. Tout le monde peut faire ça. C'est très humain. Est-ce que c'est ça la foi qui sauve? Cette foi unie. On ne va pas rester sur ça aujourd'hui. Ça vaut une étude de plusieurs fois. Une chose que nous étudions à l'Institut même. Cette union entre le croyant et son sauveur grâce à la nouvelle naissance, entrée par la foi. Comme disait Spurgeon, la foi, c'est la main qui s'étend pour recevoir le euro, la grâce. Il n'y a aucune louange pour cette main. Garde la foi, soyez positif. Un homme très optimiste, qui donne des orations partout parce qu'il est motivateur, il est un motivateur des gens. Ce n'est pas mauvais ça, ce n'est pas la foi du tout. La foi c'est autre. La foi c'est une chose qui surnaturellement unit quelqu'un à Christ. Si quelqu'un est en Christ, si à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné l'autorité. Ce n'est pas le mot dynamus ici, c'est le mot autorité qui veut dire le droit de devenir un enfant de Dieu. Beaucoup plus on pourrait dire. La foi, maintenant, est une foi qui agit. Ici, c'est un point de où il y a beaucoup de controverses maintenant dans le monde évangélique, dans nos milieux, mais la Bible enseigne que la foi qui sauve est une foi qui agit, et Jacques va parler, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'y a pas des œuvres ?» Que répondrez-vous à cette question ? De l'Esprit Saint, de la part de Jacques, l'apôtre. Que sert-il de dire à quelqu'un qui dit qu'il a la foi? Non. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'y a pas des œuvres? Il doit y avoir une bonne réponse. Il doit y avoir une réponse biblique. Il doit y avoir une réponse qui corresponde et qui ne soit pas contraire à l'enseignement des doctrines de salut. La foi peut-elle sauver? Oh, ça, malheureusement, cet article défini a été mis là, qui n'est pas vraiment un mot qui désigne toute foi qui parle dont l'apôtre Paul parlait. Le mot est un mot emphatique qui dit c'est cette sorte de foi, cette espèce de foi, la foi dont tu parles a. Et il y a des déformités dans cela. Ah, il y a des déformités dans la foi que beaucoup de monde, chers amis, n'oubliez pas que quand nous venons à Jésus-Christ avec la simplicité et l'humilité, il y a toujours la chair et même notre conception risque d'être imprégnée par des déformités. Et vous le savez si vous avez marché quelque temps avec le Seigneur. Il y a des choses qui s'éclairent au fur et à mesure à travers les années, qui sont plus claires maintenant que par rapport à ce que vous pensez maintenant et ce que vous avez pensé il y a 10 ans. C'est presque une autre religion, presque. Non. C'est quand même une croissance de compréhension dans notre sanctification, où nous reconnaissions que la foi qui sauve n'est pas simplement la porte dans laquelle un nouveau converti entre pour laisser l'évangile derrière lui et pour aller dans les choses profondes, l'évangile et les choses profondes. Ils s'approfondissent pour que vous plongez de plus en plus profonde dans la mer de la bonne nouvelle, du salut en Jésus-Christ, par la foi et la foi seule. Cette foi agit, parce que cette foi est vivante, parce qu'une foi vivante ne peut pas ne pas agir. Je répète. La foi qui sauve ne peut pas ne pas agir. Faiblement, charnellement parfois, imparfaitement, mais la foi réelle qui sauve est une foi qui agit. Verset 15, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? C'est une foi, apparemment, qui n'est pas la même foi dont Paul parle, parce que la foi dont Jacques parle est la même foi que Paul parle, il n'y a pas de inconstance entre les deux. Mais cette foi dont il parle, il en est ainsi de la foi, verset 17. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dirait, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. D'accord? Montre-moi des signes de vie. Montre-moi cet enfant qui naît, c'est ce qu'il respire. Il n'y a pas d'haleine? Il n'y a pas de ça. Montre-moi ta foi par les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Oui, parfois on se trompe. Parfois on pense que quelqu'un est mort, il n'est pas mort. C'est notre tromperie. Parfois on pense qu'il est vivant, il n'est pas vivant. Mais Dieu le sait. Et Dieu nous donne aussi des capacités de voir, des sens vitaux, même faiblement. Il y a le sens vitaux, et Dieu ne nous donne jamais le droit de dire tel ou tel est une... Combien de fois j'avais posé la question, est-ce qu'il est chrétien? Oui, mais on dirait ça ne se voit pas. Ne dis plus oui, mais donc. Oui, vous ne le savez pas, mais vous n'avez pas le droit de dire oui, mais quand il n'y a pas de signe. Vous pouvez dire j'espère, Dieu le sait. Moi, je vois pas de signe. Montre-moi ta foi et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. Non. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai par les œuvres. On va savoir quel est le bébé qui vit et le bébé qui est mort. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? C'est très bon. Tu fais bien. Les démons savent ça aussi. Leur foi est plus intense que votre foi, vous tremblez moins que les démons qui sachent le fin de leur état à cause de rejeter ce qu'ils savent. Ils ne croient pas. Mais ils croient ça. Enfin, jusqu'à présent, tout ce que nous avons dit, on aurait pu dire oui par rapport aux démons. Ils connaissent certaines choses mieux que nous. Ils acceptent le fait. Ils ont une autre manière de voir parce que quand ils ont quitté le trône du ciel, suivant leur maître Lucifer, ils croyaient qu'il allait gagner sur Dieu et qu'il allait recevoir les promesses que Lucifer leur avait fait. Mais après, ils voyaient qu'ils étaient déçus, ils auraient dû changer. Ils n'ont pas, et Dieu n'a pas, envoyé son Fils à la croix pour mourir pour les anges. Ils savent qu'ils sont déchus. Ils savent qu'ils ont trouvé la perdition éternelle. Il tremble, mais il ne changera jamais. Leur foi est mieux que beaucoup de foi de gens qui attestent être chrétiens. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile et futile et vanité et non réelle? Ce qui est beau aussi, c'est que nous pouvons voir. Oui, Seigneur, ma foi est faible. Oui, parfois, j'ai honte de penser de ce que je pense, parfois. Comment ça se fait que je peux être chrétien? Mais des signes vitaux, ils sont là. Oh, Seigneur, change-moi. Il veut changer. Il ne veut pas ne pas changer. La foi agit. Vous ne croyez pas, disait Jésus aux pharisiens, aux juifs, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mais, brebis, ils entendent ma voix, ils les connaissent, ils me suivent. Quelles sont les caractéristiques d'une vraie brebis? Ils entendent la voix, ils suivent la voix de son maître. Comment savez-vous une vraie brebis? Parce que elle est marquée avec une oreille attentive et un pied qui suit. Oh, je ne dis pas à 100% et à 24 heures sur 24 et à 7 jours sur 7, etc. Il y a, malgré tout, le bout qui est attirant. Et quand un cochon et une brebis sautent tous les deux dans la boue, le cochon ne veut pas sortir. Le brebis ne veut pas rester dedans. Parce que il est une brebis. Il a d'autres pieds, il a d'autres oreilles. Il n'est pas la même mentalité qu'avant. Oui, il était attiré. Oui, il va se repentir. Il va se laver. Il va pleurer, mais il va pas vouloir rester. Ah, un autre signe vitaux que c'était une vraie personne, avec la foi qui sauve. La foi est une foi qui continue jusqu'au bout. La Bible déclare, même le verset que nous avons déjà vu, n'est-ce pas? Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je l'ai dit. Il y a plein de gens où la Bible est claire sur ceci, des gens qui suivent à l'extérieur, mais qui démontrent plus tôt ou plus tard qu'ils n'étaient pas des vrais brebis. Jean en parle. Il y avait des gens qui étaient avec nous, mais ils ont démontré que malgré qu'ils avaient été avec nous, tel que la pression arrivait, il y a un point où la pression, les distractions du monde, les soucis de tous les jours, les tentations, vont terminer par où il va dire, j'en ai assez de cette foi chrétienne. Oh, il va pas dire ça en tel mot. Il va simplement reculer. Peut-être. L'un ou l'autre. Les fois, la foi qui sauve n'est pas un attribut de cette personne, malgré nous ne savons pas. Nous n'avons pas la capacité de discerner à la limite, mais il y a des signes. Mais nous ne pouvons pas dire oui ou non. Mais Dieu peut le dire. Donc, la parabole, quand le livret et le mauvais herbe poussent ensemble à l'apparence, il n'y a pas de différence, n'enlevez pas l'un pour que vous risquez d'enlever l'autre. Mais les anges, au dernier jour, ils vont séparer les deux ensemble, à part. Ils le savent, Dieu le sait, il ne fera aucune erreur. La foi qui sauve est une foi qui continue. Il y a pas mal de gens ici qui vous avez traversé des eaux très 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 profondes et vous êtes sortis, aucune tentation ne vous est survenue, que vous ne l'avez pas trouvée humaine et que vous n'avez pas trouvé que le Seigneur est fidèle, qui ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec cette tentation, il préparait le moyen, vous êtes sortis dans la lumière et vous n'avez pas renié le Seigneur. Oh, merci Seigneur pour cette évidence de mon vrai salut. Ça, c'est votre histoire. C'est l'histoire pour beaucoup. C'est l'histoire pour tous les chrétiens. J'ai pensé d'avoir perdu mon salut. La Bible n'enseigne pas la perte du salut. Malgré certaines pensent ça à travers cette parole, ici que nous avons vu il y a quelque temps. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous naît un cœur mauvais et incrédule au point de détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous n'endurcisse pas par la séduction du péché, parce que le temps de verbe est très important. Nous sommes devenus participants en Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. N'ayez pas peur de aucun verset de la parole de Dieu. La Bible est consistante avec soi-même. Le verbe, et nous avons déjà vu ça en étude plus loin autrement, mais savoir à dire, suffit à dire nous sommes participants et celui qui ne continue pas jusqu'à la fin démontre qu'il n'est pas devenu participant de Christ. Et ça arrive. La souffrance établit la clarté de la vraie foi, en opposition de la mauvaise foi. Je ne dis pas que dans un moment de faiblesse devant le bûcher, vous n'avez que dire oui pour être brûlé ou non pour ne pas être brûlé. Des chrétiens disaient non. Ils étaient sauvés. Et après la persécution, les autres chrétiens, ils se mettent ensemble pour angoisser. Est-ce qu'il était chrétien ou pas chrétien? Parce que le moment de l'essai, il s'est reculé. Bien sûr, beaucoup étaient chrétiens. Certains ne l'étaient pas. Mais l'église primitive était vraiment devant un moment critique. Est-ce qu'on devrait l'accepter parce que maintenant la persécution est passée? Est-ce qu'on l'accepte ou pas? Ils ont eu des grands débats par rapport à ça. Et encore une fois, nous ne pouvons pas savoir nous-mêmes. Mais celui qui est en Christ va aller jusqu'à la fin, parce que septièmement et dernièrement, c'est un don de Dieu. Je suis persuadé, dit l'apôtre Paul à Philippiens, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Dieu ne va jamais rater dans la personne en qui il a commencé une bonne œuvre. et vous n'avez pas la capacité, je n'ai pas la capacité de voir deux personnes qui commencent ici dans les mêmes circonstances et leur vie est tellement différente et l'un pense aller comme ça et l'autre pense aller comme ça, mais parfois c'est contraire. En réalité, nous ne savons pas. Nous devons discerner, comme nous avons appris à la retraite, avoir un esprit de discernement par rapport à notre croissance et maturité chrétienne et communion fraternelle les uns avec les autres. Mais nous ne pouvons pas lancer un jugement sur une personne et dire il n'est pas sauvé. Nous n'avons pas le droit de dire peut-être qu'il est sauvé. Mais nous n'avons pas le droit non plus de dire il est assurément pas sauvé. Normalement. Parfois on peut dire c'est clair, il peut pas être chrétien. Et il y a certaines choses qu'on peut le dire. Celui qui nie les enseignements de la parole fondamentale de notre foi chrétienne, on peut le dire, malgré ses professions avant, il n'est pas sauvé. C'est marqué ici, c'est clair. Même avec tout cela, il y a quand même beaucoup d'ambiguïté dans l'histoire de l'Église. 1 Pierre 1, 5. Comment êtes-vous gardés dans votre foi? Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Vous qui êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans ces derniers temps. Et puis, Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don. La grâce, c'est un don. La foi, c'est un don. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et devant Dieu, vous pouvez dire avec le publicain, « Oh Dieu, merci, tu as eu miséricorde sur moi. Je ne l'ai pas mérité hier, je ne l'ai pas mérité le jour de mon salut. Déjà aujourd'hui, j'ai fait des choses qui prouvent que je ne le mérite rien. Mais je l'ai. Tu m'as sauvé. Je t'aime. Tu m'as persuadé, tu m'as convaincu. » Et je peux dire, comme cet homme qui demande à Jésus, « Peux-tu guérir mon fils ?» Et Jésus dit, « Peux-tu croire ? Puis-je guérir ton fils ? Peux-toi, tu crois ?»« Oh oui, je crois. Ma prière, votre prière, tous les jours, oh, viens à secours de mon incrédulité. » Un mot, presque. La foi qui sauve est une foi qui convainc, qui change, qui vise un objet, qui nous unit à Dieu, qui agit, qui continue jusqu'à la fin, et qui est un don de Dieu. Avez-vous cette foi? Est-ce que vous avez une foi qui est persuadé que Jésus-Christ est devenu votre substitut? C'est toi ou ton substitut qui sera jugé éternellement pour tes péchés? As-tu ce substitut dans qui tu mets ta confiance tous les jours? Est-ce que tu es en train de changer? C'est le mot repentance. Changer, changer, changer. On est en train de changer. On a pris, c'est plus cette direction, mais il y a beaucoup d'ambiguïté dans notre tête. Le problème, c'est toujours nous. Mais, parce que ça, c'est comme des pixels qui deviennent de plus en plus nombreux. On voit de mieux en mieux, de mieux en mieux. On est plus ravi, plus que ça devient clair encore. Est-ce que c'est votre, malgré vos défaites, vos chutes, unis à Christ? C'est pas Romains 1.12, c'est Jean 1.12, désolé. Tout ça, c'est un don. Après tout, ce n'est pas vous. Ça, c'est la raison pour laquelle nous pouvons mettre notre confiance en Dieu. Ça vient de lui, cette persuasion, ce changement, cet objet, cette unification, cette œuvre, cette continuation. L'homme ne pourrait jamais faire ça. C'est un don. L'avez-vous reçu? Prions. Merci, Père.